Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, merci d'écouter Radio Prague International. Voici les titres. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, participe à Prague à un colloque sur les 30 ans de la chute du rideau de fer. La plus haute juridiction en République tchèque a donné raison à une étudiante somalienne dans une affaire du port de voile au lycée. Une pétition soutenue par plus de 50 000 personnes demande une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian rencontre ce vendredi à Prague son homologue tchèque Tomáš Petříček. Leurs échanges portent sur les grands enjeux de l'actualité européenne et internationale sur lesquels la France et la République tchèque coopèrent étroitement. Il s'agit en particulier des contributions conjointes à la sécurité et à la stabilité du Sahel. Jean-Yves Le Drian doit également rencontrer d'anciens dissidents et signataires de la charte 77 et prononcer un discours sur l'héritage de 1989 pour l'Europe dans le cadre d'un colloque international sur les 30 ans de la chute du rideau de fer, un colloque organisé par le Centre français de recherche en sciences sociales à Prague, l'Université Charles et d'autres institutions encore. Le président de la République, Miloš Zeman, a déclaré jeudi dans une interview accordée au quotidien Mladá Fronta Dnes qu'il n'allait pas appliquer son pouvoir d'interrompre une procédure judiciaire dans l'affaire du nid de cigogne. Dans cette affaire, le premier ministre Andrej Babiš est soupçonné d'avoir bénéficié frauduleusement de 2 millions d'euros de subventions européennes réservées aux petites et moyennes entreprises pour la construction du complexe touristique et dit du nid de cigogne. Cette semaine, le procureur général Pavel Zeman a décidé de relancer cette affaire, l'enquête ayant été interrompue depuis septembre dernier. Le président Miloš Zeman avait annoncé à l'époque qu'Andrej Babiš bénéficierait d'une grâce présidentielle si le procureur général de la République décidait finalement qu'ils doivent être jugés. Ce jeudi, le président a indiqué que la police devait poursuivre l'enquête, mais qu'il ne voyait pas de raison pour que le premier ministre démissionne. La plus haute juridiction de République tchèque, Nejvyšší soud, a donné raison à une étudiante somalienne à laquelle la direction de l'école d'infirmiers du 10e arrondissement de Prague avait interdit de porter le voile. La première affaire du genre en République tchèque remonte à la rentrée 2013. Considérant que l'établissement scolaire l'a indirectement discriminée dans son accès à l'éducation et dans sa liberté de choisir une profession, l'étudiante somalienne qui avait obtenu l'asile en Tchéquie en 2011 a demandé des excuses ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros. Ces plaintes ont été rejetées par les tribunaux pragois. Dans son verdict, la Cour suprême constate que l'interdiction du port de voile pendant les cours théoriques était sans fondement légitime. La République tchèque doit accepter et tolérer le pluralisme religieux, ont déclaré les juges de la Cour suprême. Quelque 55 000 personnes ont signé une pétition qui demande une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Ce vendredi, les représentants de la Société ornithologique tchèque et de l'Union tchéco-morave des chasseurs ont remis la pétition au ministre social-démocrate de l'agriculture, Miroslav Toman. Les signataires s'inquiètent notamment de la disparition progressive des oiseaux en République tchèque et demandent aussi à ce que le pays soit plus actif en matière de protection de l'environnement au niveau européen. Côté météo, le temps sera couvert avec de la pluie sur la majeure partie du territoire tchèque samedi, jour de la fête des Ambroš. Les températures seront comprises entre 5 et 9 degrés. Des risques de verglas sont prévus dans l'est du pays, en Moravie, où il fera plus froid, autour de 3 degrés. C'était les informations de Radio Prague International par Magdalena Hrozinková, la suite du programme avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. La République tchèque va rendre plus difficiles les examens de langue tchèque qui permettent d'obtenir un permis de résidence permanent dans le pays. Visite ensuite du ministère des Affaires étrangères tchèque, ou plus particulièrement des combles du bâtiment où se trouvent les archives diplomatiques. Revue de presse de la semaine en seconde partie d'émission, comme tous les vendredis. Bonne écoute de ce programme. « pour se voir délivrer un permis de résidence permanente en République tchèque. Les étrangers originaires de pays hors Union européenne doivent se confronter à un examen de langue tchèque. Le gouvernement prépare en ce moment une nouvelle loi pour complexifier les tests ainsi que rendre les contrôles plus stricts et lutter contre de potentiels tricheurs. Son principal argument concernant le niveau de langue, la République tchèque est le pays le moins exigeant d'Europe. Thomas Perrochot.
Avec son économie croissante, son taux de chômage très bas, ainsi que sa fidèle réputation de bière bon marché et d'architecture somptueuse, la République tchèque a été témoin ces dernières années d'une hausse de l'immigration. Certains, comme Pierre, tout droit venu du Panama, font preuve d'efforts intenses pour apprendre la langue locale.
J'ai pris des cours intensifs pendant au moins 4 semaines et j'ai beaucoup appris. Il y a une certaine logique là-dedans. Ce qui est compliqué pour moi et pour le reste de mes camarades de classe, sans doute aussi pour tous les étrangers, c'est qu'il y a tellement d'exceptions dans la langue que c'est très difficile à saisir. On y vient à bout à grand renfort de mémorisation de certains mots et termes.
Si Pierre apprend le tchèque par intérêt, pour beaucoup, c'est une phase nécessaire afin d'obtenir un permis de résidence permanente. Pour obtenir le document qui donne accès à l'assurance de santé publique et permet de bénéficier des services sociaux, les étrangers venus d'États extérieurs à l'Union européenne doivent notamment passer un test de langue tchèque. La professeure Kristina Horáčková du Centre de formation linguistique tchèque de Prague fait partie de ceux qui aident les candidats à préparer leurs examens.
Les personnes qui veulent obtenir un permis de résidence doivent réussir un examen de niveau A1. Pour le moment, il y a un format assez semblable à l'examen anglais. Il y a donc une partie lecture, écoute, rédaction et bien sûr expression orale. Chaque partie dure entre 20 et 30 minutes, ce qui est plutôt chronophage.
Néanmoins, cette version des examens ne sera bientôt même plus valable, car le gouvernement se penche en ce moment sur une nouvelle législation qui cherche à porter le niveau de compétence en tchèque nécessaire à l'échelon A2. Cette nouvelle mesure devrait entrer en vigueur courant 2021. Selon le ministère de l'Éducation, plutôt qu'être une décision discriminatoire, rehausser le niveau de langage requis permettra aux détenteurs de permis de résidence d'acquérir les connaissances nécessaires à leur intégration dans la société et le monde du travail. La professeure Kristina Horáčková approuve cette idée et ajoute que cela permettra de donner plus de valeur au permis de résidence. Cependant, elle précise que ce nouveau standard pourrait poser des difficultés à certains apprenants.
Aujourd'hui, le niveau A1 n'est pas facile en soi, mais faisable si vous apprenez et travaillez assidûment. Pour les personnes ne parlant pas de langue slave, ce sera plus compliqué, mais il est tout à fait possible de s'en sortir. Toutefois, le niveau A2 posera un défi même aux slavophones, et pour les autres, j'ai bien peur que cela représente un plus gros problème.
Et lorsqu'on demande à Pierre ce qu'il en pense en tant qu'apprenant, il répond que cela devrait bien se passer, mais souligne les problèmes que certains pourront rencontrer.
Si, disons, vous êtes une personne qui n'a pas les moyens ou le temps de se consacrer à l'apprentissage du tchèque jusqu'à atteindre le niveau A2, cela vous portera préjudice pour obtenir votre permis de résidence ici.
Ce ne sont pas seulement des tests plus compliqués que le gouvernement a pour projet d'instaurer, mais aussi des règles d'examen plus strictes. Par exemple, des officiers de police seront autorisés à surveiller le test pour empêcher la triche. Enfreindre les règles ou ne pas se présenter à la date de l'examen aura valeur éliminatoire et les 10 candidats devront s'acquitter d'une somme de 2500 couronnes tchèques pour une réinscription.
Le palais Černín, Černínský palác en tchèque, a la réputation d'être le plus grand palais baroque de Prague. Il est depuis 1934 le siège du ministère des Affaires étrangères et a connu certaines des heures les plus riches et les plus sombres de la Tchécoslovaquie. En témoignent, sous les combles du bâtiment, les impressionnantes archives de la diplomatie nationale. Direction les hauteurs de la capitale pour une petite visite en compagnie d'Alexis Rosenzweig.
Pour une bonne partie de la population tchèque aujourd'hui, cet impressionnant bâtiment reste lié à un événement tragique survenu juste après le coup de Prague de février 1948, le décès du chef de la diplomatie Jan Masaryk, retrouvé mort en mars après une chute de la fenêtre, une mort toujours pas élucidée et qui fait aujourd'hui à nouveau l'objet d'une enquête tout juste rouverte. Pour accéder à cette tristement célèbre fenêtre située dans une des salles de bain du dernier étage, Il faut traverser d'abord l'ancienne chambre à coucher du ministre et son bureau, après être passé par la plus grande salle de l'étage inférieur, celle où le pacte de Varsovie a officiellement été démantelé en 1991. De l'autre côté du bâtiment, il faut monter quelques marches pour atteindre les archives. Helena Balounova en est la responsable.
Nous sommes ici dans les archives du ministère. Ce grenier a été aménagé dans les années 30 et il y a environ 4,5 km linéaires d'archives qui remontent à la création de la Tchécoslovaquie en 1918. Mais nous avons aussi des documents plus anciens, dont le plus vieux remonte à la fin du XVIIIe siècle.
Parmi les fonds les plus fournis se trouvent dans ce grenier les archives parisiennes de la Tchécoslovaquie. Elles font partie des plus précieuses et sont donc dans la chambre forte climatisée et fermée à double tour. En ouvrant au hasard un des grands classeurs, on découvre comment une bonne diplomatie ne peut finalement être que facilitée par la bonne chère. En témoigne cette lettre adressée en janvier 1919 au ministre tchécoslovaque Edvard Beneš. Une lettre par laquelle la diplomatie française l'informe de son projet d'accorder aux membres des délégations des puissances alliées présentes à la conférence de la paix l'exemption des droits de douane et d'octroi sur les vins, les alcools et les produits alimentaires. Fin de citation. Le bâtiment n'a pas été le siège de la diplomatie pendant tout le siècle et les quelques mois qui séparent cette fin d'année 2019 de la création de la Tchécoslovaquie. Helena Balounova.
Černínský palác byl sídlem říšského protektora K.H. Franka a archivu se toto období.
Le palais de Černín a été à partir de 1939 le siège du dirigeant nazi Karl Hermann Frank et toutes les archives ont été transportées à Berlin à ce moment-là pour faire l'objet d'un contrôle. Tout a été ramené à Prague, mais il y a eu des pertes et des destructions, c'est certain.
Pochopitelně dokumenty z poslední doby se pokusili zničit.
Il est aujourd'hui possible de faire des recherches dans ces archives diplomatiques pragoises. Étudiants et chercheurs peuvent y trouver de nombreuses ressources sur les liens entretenus par la Tchécoslovaquie avec le reste du monde. Quelques dossiers sont également classés par nom, comme celui concernant Vladimir Vochoč, consul à Marseille entre 1938 et 1941, et récemment devenu juste parmi les nations à titre posthume.
Do archivu může přijít bádat každý, jehož téma je obsaženo vlastně v našich dokumentech, přičemž
tout le monde ayant un thème lié à notre fonds peut venir faire des recherches dans nos archives. La seule contrainte est qu'il n'est pas possible de circuler librement dans le palais de Černín. Donc il faut obtenir un accord et prendre rendez-vous avant de venir. En général, ce sont des étudiants qui viennent ici pour écrire leur mémoire. Mais nos archives intéressent également des chercheurs aguerris et des auteurs.
A jsme samozřejmě naše dokumenty zajímají i už renomované vědce, probíhají editační.
Et pour plus d'informations sur ces archives du ministère des Affaires étrangères, ce sera sur le site de Radio Prague, radio.cz/fr.
Notre nouvelle revue de presse de la semaine écoulée se penche d'abord sur les retentissements de deux événements liés au Premier ministre Andrei Babiš, le rapport d'audit de la Commission européenne qui a confirmé son conflit d'intérêts et la décision du procureur général de le mettre nouveau en accusation dans l'affaire du nid de cigogne. La contradiction entre la volonté d'une partie de la société tchèque d'aider de jeunes migrants et le refus officiel est un autre sujet traité. Quelle alternative au mouvement ANO ? Réponse également dans ce magazine qui se penchera enfin sur le sommet de l'OTAN de Londres. Cette rubrique a été préparée pour vous par Lena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
En l'espace de trois jours seulement, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a essuyé deux coups durs, constatent à l'unisson les médias locaux. D'abord, un rapport d'audit de la Commission européenne a confirmé son conflit d'intérêts. Ce mercredi, le procureur général de la République, Pavel Zeman, a partiellement annulé la décision du procureur général de Prague de mettre un terme aux poursuites contre le Premier ministre dans l'affaire de fraude du nid de cigogne. Dans cette affaire donc, le chef de gouvernement est soupçonné d'avoir bénéficié frauduleusement de subventions européennes destinées aux petites et moyennes entreprises. Le commentateur du journal Lidové Noviny, propriétaire du groupe médiatique Mafra, racheté en 2013 par l'actuel Premier ministre Andrej Babiš et officiellement également placé dans un fonds fiduciaire, a écrit à ce propos.
La critique de Bruxelles sur le conflit d'intérêts a plus de poids que l'affaire de fraude du nid de cigogne. Le débat sur les règles liées à la gestion du pays est effectivement ce qui doit nous intéresser en priorité. L'arrivée au pouvoir de Babiš propose à la société tchèque des questions tout à fait nouvelles. Il s'agit de savoir comment traiter les hommes d'affaires entrés en politique, comment faire pour que ceux-ci n'abusent pas de leurs fonctions en fonction de leurs intérêts commerciaux.
Les événements qui se sont déroulés ce mercredi devraient être salués par tous ceux qui ont de bonnes intentions vis-à-vis de la Tchéquie, écrit le commentateur du quotidien économique Hospodářské noviny.
C'est une bonne nouvelle, non pas parce que Andrej Babiš risque d'être traduit en justice, car ce serait trop odieux. C'est parce qu'on peut constater avec soulagement que la Tchéquie demeure un état de droit à part entière. La décision du procureur général prouve que même les plus hautes fonctions dans l'exécutif ne garantissent pas l'impunité.
Dans la majeure partie des pays démocratiques, le rapport d'audit européen selon lequel le Premier ministre est en situation de conflit d'intérêts aurait pour conséquence sa démission, estime l'auteur d'un commentaire publié sur le site actuarnia.cz. Il explique en même temps pour quelles raisons, en dépit des révélations de ce rapport, Andrej Babiš n'a pas pour autant à craindre une fragilisation de sa position sur la scène politique tchèque.
Même l'enquête menée liée à l'affaire du nid de cigogne n'a pas ébranlé sa cote de popularité. Soit ses sympathisants ne croient pas les accusations, soit ils ferment les yeux sur le comportement du Premier ministre. Ce constat semble étayé par les habitudes que la génération plus âgée, qui constitue une partie importante de son électorat, a hérité de l'ancien régime. Un autre point qui joue en sa faveur, c'est la faiblesse de la société civique, et ce malgré les manifestations de masse organisées par le mouvement « 1 million de moments pour la démocratie ». À noter aussi le fait qu'une partie non négligeable des médias locaux lui est favorable.
Le commentateur du site Forum 24 met pour sa part l'accent sur la nécessité d'élever le niveau d'éducation des électeurs, qui est, estime-t-il, horrible. Selon lui, il faut aussi établir des standards éthiques plus élevés pour les élites, une façon de réduire le nombre de personnes prêtes à relativiser les données évidentes. Or, d'après lui, le problème ne résiderait pas en la personne de Babiš, mais dans la société elle-même. La nation des Hussites et des orphelins, c'est ainsi que s'intitule un texte publié dans la dernière édition de l'hebdomadaire Respect, qui réagit à l'hésitation des politiciens tchèques d'accueillir dans le pays un groupe d'enfants vivant dans des camps de réfugiés en Grèce. Rappelons que l'initiative en vue de l'accueil d'une cinquantaine d'orphelins syriens a été lancée par l'eurodéputé Mikhaela Choydrova avant d'être ensuite catégoriquement rejetée, tant par le gouvernement que par les nationalistes radicaux et les communistes. Le magazine a écrit à ce propos.
Aujourd'hui, nous avons une belle occasion d'étudier la transformation que la société tchèque a subie au cours des 30 années écoulées. Le pays qui, pendant les conflits des Balkans il y a 25 ans de cela, a accueilli sans hésiter des milliers de musulmans bosniaques pour leur offrir sécurité, travail et éducation, craint d'accueillir quelques dizaines d'enfants qui sont coincés, sans grande perspective, dans des camps en Grèce. Le refus du gouvernement est étonnamment puissant. Le ministère de l'Intérieur déploie de gros efforts pour empêcher toute aide, ignorant les propositions des organisations non gouvernementales tchèques qui veulent servir de médiateurs en matière d'accueil et d'intégration des enfants.
Respect signale qu'il existe effectivement en Tchéquie des gens qui veulent aider et qui se sentent humiliés par l'approche du gouvernement, tout comme il existe des familles prêtes à accueillir ces enfants en détresse. Son commentateur indique également.
Certes, pour tout pays, l'accueil d'enfants migrants n'est pas facile. Mais compte tenu du fait qu'il s'agit effectivement d'enfants, une telle aide a une chance d'avoir un retentissement positif dans la société.
Signifie vivre dans la République de Babiš, s'interroge un commentateur du magazine Reflex. Une république qui, 30 ans après la chute du régime communiste, n'est pas animée par la valeur de liberté, l'esprit d'entreprise, l'initiative, l'individualité et l'ouverture au monde, comme elle a été au lendemain de la révolution de velours, et de répondre.
Pour la majorité des électeurs de Babiš, sa république signifie la distribution des biens à de larges couches de la population, une atmosphère de calme pour le travail, le rejet de mesures climatiques radicales, le refus de l'euro et de toute migration massive. C'est un pays recroquevillé en quelque sorte sur lui-même qui défend par-dessus tout la stabilité et l'absence d'engagement dans la vie publique.
Pour changer la donne, les partis d'opposition ont deux possibilités. Accepter la domination de Babiš et l'esprit de sa république et miser sur la coopération avec le mouvement ANO au sein du prochain cabinet ou bien présenter une alternative. Le commentateur précise.
Cette alternative ne doit pas concerner uniquement le programme, mais impliquer également un changement stratégique. Un défi difficile à relever pour l'opposition. Les élections régionales qui auront lieu d'ici un an nous en diront plus. En cas de victoire du mouvement ANO, on pourra s'attendre très probablement à ce que celui-ci l'emporte aussi aux prochaines élections législatives en 2021.
Il semble que l'Occident se réveille. C'est ce qu'estime l'auteur d'un commentaire publié dans le quotidien Nada Frontanes et intitulé « Pourquoi craindre la Chine ?» qui se penche sur le sommet de l'OTAN qui s'est tenu cette semaine à Londres à l'occasion du 70e anniversaire de sa fondation. Il écrit
« On pourrait dire que ce n'est que maintenant que les puissances occidentales réalisent que la Chine n'est plus, et ce depuis longtemps déjà, un tigre de papier sous-estimé, mais un adversaire stratégique de plus en plus dangereux qui renverse aussi lentement qu'obstinément l'équilibre global de son côté. Mieux vaut tard que jamais. Ainsi, c'est la première fois que les participants au sommet de l'OTAN ont sérieusement discuté de la Chine comme représentant une menace possible pour les démocraties occidentales. D'une certaine façon, l'Empire du Milieu est devenu pour l'Alliance Nord-Atlantique une sorte d'Union soviétique du XXIe siècle.
Selon le commentateur, il s'agit en même temps, à bien des égards, d'un défi bien plus délicat et foncièrement différent de celui des années de la guerre froide.
La fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci de l'avoir suivi. Dès demain, retrouvez notre programme du week-end. Rendez-vous avec la culture, la littérature. Dimanche, nous parlerons de musique de Noël, mais de la musique de Noël à l'époque de la Renaissance et à l'époque baroque. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent, ahoy.